en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. En 1997, il y a donc 10 ans, disparaissait un des plus grands historiens du XXe siècle, François Furet, spécialiste de la Révolution française, mais aussi des passions révolutionnaires, qu'elles se soient exprimées au XVIIIe siècle, au XIXe ou bien encore au XXe siècle avec le communisme. Élu à l'Académie française, le 20 mars 1997, sur le siège de Michel Debré, au fauteuil numéro 1, nous n'eûmes pas la chance de l'entendre sous la coupole, puisque sa mort survint le 12 juillet. Et ce fut René Raymond, lui aussi récemment disparu, qui fit l'éloge des deux hommes, Michel Debré donc, et François Furet. Alors pour débuter cette émission, je souhaiterais vous livrer une citation de François Furet, prononcée bien après la chute du communisme, en cette fin de siècle. Vous y retrouverez non seulement l'historien, mais aussi le journaliste observateur du monde contemporain. « Telle est la toile de fond mélancolique de cette fin de siècle », écrit François Furet. Nous voici enfermés dans un horizon unique de l'histoire, entraînés vers l'uniformisation du monde et l'aliénation des individus à l'économie, condamnés à en ralentir les effets sans avoir de prise sur leur cause. L'histoire apparaît d'autant plus souveraine que nous venons de perdre l'illusion de la gouverner. Mais comme toujours, l'historien doit réagir contre ce qui prend, à l'époque où il écrit, un air de fatalité. Il sait trop bien que ces sortes d'évidences collectives sont éphémères. Les forces qui travaillent à l'universalisation du monde sont si puissantes qu'elles provoquent des enchaînements de circonstances et de situations incompatibles avec l'idée de loi de l'histoire, a fortiori de prévisions possibles. Comprendre et expliquer le passé n'est déjà pas si simple. Mona Ozouf, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Faut-il vous présenter ? Vous étiez l'ami de François Furet, également sa collègue, philosophe de formation. Vous êtes redirigé vers l'histoire et votre œuvre est impressionnante. Je citerai simplement votre dernier ouvrage paru chez Fayard, Récit d'une patrie littéraire, La France, les femmes, la démocratie, dans la collection donc Les Indispensables. Il y a également chez Flammarion la réédition du Dictionnaire critique de la Révolution, un ouvrage que vous avez coécrit avec François Furet. Et vous venez de préfacer La Révolution française, paru chez Quarto, enfin dans la collection Quarto chez Gallimard, qui regroupe donc les livres et les textes majeurs du regretté François Furet sur la Révolution. Alors je serai incomplet dans ses références bibliographiques en ne citant pas Penser le XXe siècle, paru dans, chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, qui est une compilation, là encore, de textes de François Furet, préfacé cette fois par Pierre Asner. Et enfin, le texte de Rana Lévy, L'expérience du passé, François Furet dans l'atelier d'histoire, paru aussi chez Gallimard. Alors, ma première question, Mona Ozouf, sera, ma foi, assez simple. Quand avez-vous connu François Furet ? Dans quelles conditions ? Dans quel contexte ? Quels sont vos premiers souvenirs ?
Oh, mes premiers souvenirs sont étranges, en un sens. Ils remontent à une réunion communiste, car comme beaucoup de jeunes gens de sa génération, et moi-même du reste, François Furet a fait un stage de jeunesse au Parti communiste, dont il est sorti à peu près au même moment que toute cette génération, c'est-à-dire au moment de l'affaire hongroise. Mais à ce moment-là, c'était une réunion interminable, je me souviens, à l'école normale supérieure, où il était question de savoir si nous allions ou pas faire l'unité d'action avec les trotskistes, vraiment question qui prend aujourd'hui une allure tout à fait comique. Mais c'était une réunion interminable et là-dessus est entré un personnage étrange, François Furet, que je ne connaissais pas encore sous ce nom, qui marchait de manière oblique avec une épaule en avant de l'autre, des yeux cernés par la maladie, parce qu'il sortait d'un pneumothorax. Et il représentait la post-cure étudiante dans cette réunion. Et ce qu'il a fait était tout à fait typique de ce qu'il était, c'est-à-dire qu'il a écouté les palabres. Et puis, il a pris la parole tout d'un coup, inopinément. Il a résumé l'affaire en trois phrases décisives. Il a d'ailleurs opté, je crois, dans un sens tout à fait orthodoxe, pour tout dire. Mais enfin, ces trois phrases décisives prononcées, il a pris la porte. Et c'est quelque chose qui ne se faisait jamais dans les réunions qui s'étiraient au long des après-midi. Et il y avait là un trait de lui que j'ai retrouvé tout au long de notre longue amitié, qui était l'impatience, le désir de ne pas s'ennuyer, de trancher vite, trait de son caractère qui lui a valu d'ailleurs beaucoup d'inimitié.
Alors nous reviendrons bien évidemment sur son engagement au sein du Parti communiste. François Furet est connu du grand public pour son œuvre consacrée à la Révolution, mais aussi celle consacrée au communisme. Alors on connaît moins le professeur, alors qu'il était professeur. Quel statut préférait-il ? Est-ce qu'il préférait être le professeur qui transmet à ses étudiants ou bien l'écrivain observateur du monde contemporain ?
Non, je crois qu'il n'avait pas de passion pour l'enseignement. En tout cas, il n'avait pas de passion pour un enseignement universitaire. Il faisait un séminaire à l'école des hautes études avec une poignée de fidèles, de disciples ou de fidèles, mais il n'avait pas la passion de transmettre, je crois, ou de transmettre du moins oralement. Et il n'avait pas la passion théâtrale de l'enseignement que les bons professeurs généralement ont. Il était plutôt un homme de l'écrit et d'une transmission en petits groupes.
Il aimait peu les archives, il préférait les livres. On dit souvent cela
oui.
De lui.
En fait, c'était un homme atypique dans tous les sens du terme, et ça on pourrait peut-être y revenir. Mais même sur sa classification comme historien, on le range souvent dans un historien des idées ou des concepts, qui serait au fond élégamment logé au ciel des idées, pendant que d'autres s'activeraient dans les profondeurs obscures des archives. C'est très loin d'être vrai, parce qu'à certains moments de son itinéraire, François Furet a même été un historien du quantitatif, un historien des dénombrements patients. Il a sacrifié à ce qu'Alphonse Dupron, par exemple, appelait la barbarie quantitative. J'en prends juste un exemple. L'ouvrage qu'il a consacré au livre dans la société du XVIIIe siècle est un livre de dénombrement et où il traite le livre qui est une production méditée de l'esprit humain exactement sur le même plan que le livre obscur, que la production médiocre. C'est-à-dire qu'il traite le livre comme marchandise et pas du tout comme objet culturel. Et là, il y a un historien quantitativiste qui, je pense, est oublié par rapport à l'historien de la Révolution ou de l'idée communiste, mais qui a été un historien très important aussi. Donc, je crois que François Furet avait le sentiment que les méthodes ne valent que dans la mesure où elles s'appliquent à un objet déterminé. Et donc, c'est l'objet qui détermine la méthode. Quand on veut étudier la production littéraire au XVIIIe siècle, eh bien là, on ne peut pas échapper aux archives, au comptage, à une histoire très laborieuse. En revanche, si on veut étudier la passion révolutionnaire, on peut probablement se dispenser du matériel archivistique classique. Je crois que c'était au fond question d'angle et de choix de l'objet.
Alors nous sommes engagés directement sur l'écrivain. On connaît peu l'homme. Il n'a jamais souhaité écrire de mémoire.
Non, et même Pierre Nora l'avait sollicité à un moment pour les essais d'égo-histoire qu'il avait demandé à plusieurs grands historiens français, dont Georges Duby par exemple, Raoul Girardet, Maurice Agulon. Et Furet avait décliné l'invitation de Pierre, qui était pourtant un ami. Non, il n'aimait pas beaucoup la confidence, de fait. Il faut la lire en filigrane dans ses écrits.
Il s'est beaucoup confié à vous ?
Oh, c'est une amitié de, je n'ose pas dire, de 50 ans, de plus de 50 ans même. Et donc, c'était une sorte de fraternité.
Les plus belles amitiés sont les amitiés intellectuelles ?
Je dirais que ce sont les amitiés de jeunesse qui résistent au temps. Celles-là sont absolument indestructible, je crois.
Alors, Rana Levy, dans son petit livre, hein, L'expérience du passé, François Furet dans l'atelier de l'histoire, paru chez Gallimard, évoque une jeunesse meurtrie par le suicide de ses parents, par la tuberculose. On a l'impression même qu'il en fait un personnage blessé et que cette blessure restera toute sa vie.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais je crois qu'il y a dans le récit de Rana Levy une dramatisation qui peut-être est excessive. Je m'explique. Il y avait ces blessures profondes chez François qui m'a dit quantité de fois que les seules années heureuses de sa vie sont les années d'avant-guerre, c'est-à-dire les années où il était petit garçon dans sa famille avant les drames. Et donc, il y a quelque chose de tout à fait vrai dans ce que raconte Rana Levy. Mais en même temps, François Furet était un grand mélancolique, mais qui avait mis au point une thérapie très efficace de la mélancolie par la plaisanterie, par le sarcasme, par la dérision. Il y avait chez lui une sorte...
Pas l'ironie.
Non, pas tellement. Je n'appellerais pas tellement ça l'ironie. Plutôt un joyeux sarcasme. Et c'était un homme à la fois mélancolique et gai. Une gaieté un peu noire, mais une gaieté quand même, au point que, je crois, aujourd'hui, ce que ses amis regrettent de lui, c'est évidemment le commentaire permanent de l'actualité qu'il avait avec les gens qui étaient très proches de lui. C'était le coup de téléphone quasi quotidien pour commenter le dernier numéro du Monde, par exemple. Mais c'est aussi, je crois, le rire. Il avait un rire... tout à fait étonnant, qui était à la fois salubre et dévastateur. Mais il ne faisait pas bon être la cible de ce rire non plus.
Est-ce que sa mélancolie était-elle ou rejoignait-elle un certain pessimisme?
Oui.
Alors, nous parlons évidemment de François Furet, là, en l'occurrence, plutôt vers la fin de sa vie.
Plutôt vers la fin de sa vie. Oui, je pense que c'était un pessimiste de l'intelligence, sûrement.
Alors, beaucoup de gaieté, beaucoup de drôlerie, d'humour. Est-ce que c'était un homme impatient et méfiant, malgré tout?
Ah, pas du tout méfiant, mais impatient. Il détestait, je l'ai déjà dit, il détestait s'ennuyer, il détestait le temps perdu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été si latéral par rapport à la vie universitaire. Parce que ce qu'il détestait avant tout dans la vie universitaire, c'était les lenteurs, c'était les réunions qui n'en finissent pas, c'était les politesses sans objet, c'était les thèses devenues obèses au fil des années, c'était tout ce qui était inutile. Il avait un grand sens, et c'est d'ailleurs ça qui est, je crois, le plus frappant dans son intelligence, c'est le tri absolument infaillible qu'il faisait entre le superflu et l'essentiel.
Alors, son parcours est impressionnant, hein, chercheur au CNRS, président de l'école des hautes études en sciences sociales de 1977 à 85, professeur à l'université de Chicago. Il reçoit de nombreux prix, mais bon, il était malgré tout loin de ses honneurs. Il ne les recherchait pas.
Non, c'était pas du tout l'homme des honneurs. Et d'ailleurs, c'était vrai aussi sur le plan universitaire. Il avait un immense respect pour le travail bien fait et pour les écrits soignés et intelligents. Mais il n'avait aucun respect pour, disons, tout ce qui entoure le travail universitaire de politesse entre collègues, de ronde jambes. Ça, il détestait ça tout à fait. Et par exemple, il était capable de prendre dans son séminaire, puis d'organiser la carrière aux hautes études de quelqu'un qui n'avait aucun cursus universitaire, mais qui simplement lui apportait 50 pages bien faites sur un sujet qui l'impressionnait.
Il avait vraiment l'humilité du chercheur.
Ah, je crois oui, tout à fait.
Je reçois Mona Ozouf qui évoque pour nous cette personnalité extraordinaire que fut François Furet. Nous nous retrouvons, Mona Ozouf, dans un instant.
Canal Academy.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Mona Ozouf au micro de Canal Academy, donc pour évoquer la personnalité de François Furet, que vous avez bien connu en tant qu'ami et en tant que collègue de travail. Alors, vous nous décriviez tout à l'heure la scène, la première fois, la première rencontre où François Furet fait preuve vraiment de liberté. Il sait ne pas s'attacher à une vulgate et finalement, même s'il s'engage auprès du Parti communiste, son indépendance d'esprit se révèle très vite.
Oh oui, je crois, du reste, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai fait sa connaissance. Nous allions, une petite bande de copains, dîner chez lui, rue d'Aubenton. C'était le seul d'entre nous qui avait un minimum d'installation en ville, parce que nous étions tous élèves de grandes écoles ou des choses de ce genre. Et donc, nous allions dîner chez lui de façon très spartiate et très pauvre, parce que nous étions tous très pauvres à l'époque, d'un plat de nouilles généralement. Mais dans ces dîners, dont j'ai un souvenir merveilleux, il y avait toujours un quart d'heure anticommuniste. Mais un quart d'heure de plaisanterie anticommuniste, avant de revenir aux commentaires orthodoxes de l'actualité. Il y avait les deux qui coexistaient, mais c'était tout de même une bouffée d'air libertaire.
On sent un esprit indépendant. Comment considérait-il, au-delà de son parcours d'étudiant, son engagement auprès du Parti communiste ? Il respectait une ligne de parti
Oui, il était tout à fait orthodoxe, je l'ai dit tout à l'heure, dans ses choix à ce moment-là. Et c'est plutôt lorsqu'il a, je crois, quitté le parti qu'il a fait retour sur son engagement et qu'il y a vu une sorte d'expiation. Il appartenait à une génération, c'est la mienne d'ailleurs, qui était née un peu trop tard pour avoir participé au combat de la résistance, à l'engagement, encore que lui y ait mis, il était un tout petit peu plus âgé que moi, y ait mis un pied en étant de façon éphémère membre des FFI. Mais enfin, toute cette génération avait le sentiment de n'avoir pas couru les dangers héroïques de la génération qui nous précédait juste au-dessus. Et donc, en un certain sens, l'engagement communiste était une manière d'expiation de cet éloignement involontaire. Mais nous étions trop jeunes, mais de cet éloignement tout de même de ce qui nous apparaissait à l'époque comme la vie héroïque. Et puis, il faut ajouter aussi que pour des gens qui, comme lui et moi, avions une sorte, de prédisposition génétique de gauche par notre famille, si je peux appeler ça comme ça, il n'y avait pas beaucoup de choix pour des jeunes gens qui se sentaient de gauche à l'époque. La SFIO était totalement discréditée. Et du coup, avec l'extrémisme normal, j'imagine, dans la jeunesse, tout le monde allait presque naturellement, comme une évidence, au Parti communiste.
Oui, je cite un de ses articles paru dans le Nouvel Observateur en 1978. Cela fait partie des nombreux articles qui composent l'ensemble, un itinéraire intellectuel que vous avez préfacé, un ouvrage paru en 1999 et réédité dans Penser le XXe siècle, paru chez Robert Laffont. Donc, je cite François Furet, « Pour l'intellectuel qui souffre de son isolement, c'était l'idéal, ou presque, au Parti. Il retrouvait un lien mythique avec le peuple, avec la classe ouvrière, et il recevait en prime une explication globale et exhaustive de la société dans laquelle il se sentait plutôt mal à l'aise. Ça a été, dit-il, ça a été mon cas entre 1947 et 1954. 1957 ?
Oui, d'ailleurs, j'ajouterais peut-être une chose là, c'est que il le dit à peu près, mais on peut le préciser un peu plus. Et il a écrit, je crois, ailleurs, que cette explication globale du monde que l'on recevait avec l'imprégnation marxiste et l'engagement communiste, était de nature, dit-il, quelque part, à rassurer les âmes inquiètes. Et il se définissait lui-même comme une âme inquiète.
Alors, question de mode, question de conformisme, une certaine solitude ou
C'était aussi, vous savez, une expérience assez extraordinaire de solidarité. Ce n'était pas seulement ce qu'il dit, c'est-à-dire l'illusion de participer au combat de la classe ouvrière, c'était quand même le contact, malgré tout, avec des gens que nous n'aurions jamais rencontrés autrement. Dans les cellules de quartier, on faisait la connaissance de gens, il faut bien le dire, qui étaient d'une qualité extraordinaire. Je me souviens d'un marchand de fleurs sur un marché qui avait été exclu du parti pour avoir refusé d'envoyer un cadeau à Staline pour son 70e anniversaire, au motif, disait-il, que nous donnons de nous-mêmes une très mauvaise image à la bourgeoisie. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire de rencontrer des gens de ce genre. Et ça, c'était une occasion assez unique, malgré tout.
Alors, à vous entendre, Mona Ozouf, on a l'impression que François Furet se ménage à une porte de sortie. Il reste autonome et, bon, finalement, comme beaucoup, après les événements en Hongrie, il quittera le Parti communiste.
Oui, mais il ne le quitte pas comme les autres, tout à fait. Il le quitte parce qu'il y a beaucoup de manières de sortir du Parti communiste. Il y a une manière très canonique, j'ai envie de dire, qui est de transporter son fanatisme ailleurs. Ce que François Furet n'a jamais fait. Et puis il y a une manière de rationalisation rétrospective qui tend à dire, eh bien nous avons eu tort, mais nous avons eu raison d'avoir tort. Autre sortie extrêmement classique. François Furet n'a fait ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire que transporter son fanatisme ailleurs, il ne l'a pas fait, c'est-à-dire qu'il n'a cédé au fond à aucune des tentations qui ont été si fréquentes chez les intellectuels communistes français. Il n'a pas versé son fanatisme au profit, je ne sais pas, de tentations tiers-mondistes ou chinoises, etc. Il en a, une fois qu'il a été dégrisé, il a été totalement dégrisé. Mais dégrisé sans, comment dire, sans culpabilité extrême, sans se battre la coulpe, mais sans fierté non plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le raisonnement « oui, nous avons eu tort, mais comme nous avons eu raison d'avoir tort ». Il a dit 20 fois « nous aurions pu, en n'étant pas communistes, nous épargner beaucoup de temps passé à lire de la littérature grise ». Ça, c'est tout à fait vrai. Et puis, nous serions épargnés aussi quantité de sottises que nous avons dites de concert. Donc, il y a quelque chose dans son départ du Parti communiste comme une sorte d'allégresse soulagée, je dirais.
Une sorte de libération ?
Oui, sûrement.
Cette libération renvoie au fait qu'il ne tient pas à se soumettre à une vulgate. Est-ce que, dès lors, on ressent dans ses travaux, à l'époque d'universitaire, une conséquence ? Et finalement, quels sont, pour aller directement à la question, quels sont ses rapports avec l'école des Annales à cette époque ?
Il en est proche, d'une certaine façon, à ce moment-là, parce que tous ses amis sont à l'école des Annales. Il y a une boutade qui lui appartient et qui n'a pas fait plaisir aux historiens des Annales. Il a dit quelque part, je ne sais plus, les Annales, je les connais surtout pour les rencontrer dans l'ascenseur. Ce qui était une mauvaise plaisanterie, parce qu'en réalité, il a quand même eu des liens plus étroits qu'il ne dit avec l'école des Annales. Mais au fond, il a toujours été un historien atypique, parce qu'on n'a jamais pu l'étiqueter. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de son étiquetage comme historien des idées, en faisant remarquer qu'il avait pratiqué une histoire qui n'est pas du tout une histoire des idées, mais une histoire sociale au sens le plus quantitativiste. Terme. Mais par ailleurs, il a été longtemps dans l'orbite labroussienne, comme le montre d'ailleurs le premier ouvrage sur la Révolution écrit en commun avec Denis Richet. Mais il n'a pas pu non plus jamais vraiment être étiqueté comme labroussien. C'est quelqu'un qui échappe aux classifications, me semble-t-il, tout de suite.
Alors l'histoire sociale lui semble incomplète, au fond.
Non, pas du tout. Je ne crois pas du tout. Il y a effectivement dans son œuvre une disqualification de l'histoire sociale au profit de l'histoire politique, plus l'œuvre avance. Mais Furet ne disqualifie nullement l'histoire sociale en général. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans le dictionnaire critique, on nous a beaucoup reproché de n'avoir pas fait d'entrée paysan, par exemple. Il n'y a pas de paysan dans le dictionnaire critique de la Révolution française. Pourquoi ? Non pas que Furet croit que l'histoire des paysans sous la Révolution française soit absurde. Au contraire. Mais il pense que cette histoire est inefficace pour répondre aux grandes questions qu'il se pose, lui, sur la Révolution française. Et c'est toujours ça qu'il faut garder en mémoire. Ce n'est pas du tout un mépris de l'histoire sociale, mais c'est une disqualification de l'histoire sociale pour rendre compte du phénomène énigmatique que restait pour lui la Révolution française. Et là, je crois que avec ce terme d'énigme, on touche quelque chose qui est central dans sa pensée. D'ailleurs, le terme revient constamment sous sa plume. C'est une énigme, c'est un mystère. C'est que pour lui, ce qu'il fallait comprendre dans la Révolution française, c'était deux mystères. Premier mystère, le mystère du surgissement. Comment se fait-il que un événement aussi extraordinaire, un basculement de l'ordre de la société, intervienne en si peu de temps? En quelques semaines, tout est fait. Bon, surgissement mystérieux. Et puis, deuxième problème, comment se fait-il que cette révolution, mise dès l'origine sous la bannière de la liberté, qui est saluée par tous comme une aube glorieuse, tourne si vite en despotisme? Voilà pour lui les deux questions qui étaient étranges dans la Révolution française et dont il pensait que les historiens de la Révolution ne la traitaient pas, parce que pour eux, la Révolution était un événement pourvu d'une sorte d'évidence.
Alors justement, Mona Ozouf, donc vous avez préfacé l'ouvrage La Révolution française, qui regroupe chez Gallimard dans la collection Quarto les œuvres majeures de François Furet sur la Révolution. Et l'œuvre majeure, c'est avant tout Penser, le livre Penser la Révolution française. Vous dites titre drapeau, étrange et impérieux. Quel sens donnait François Furet à ce titre Penser la Révolution française?
Ah, je crois qu'il y a dans le livre quelque chose d'assez provocateur, volontairement provocateur. Pour comprendre la provocation, il faut remonter un peu plus avant. Il avait, comme je l'ai déjà dit, écrit quelques années auparavant un livre avec Denis Richet sur la Révolution française. Un livre en deux volumes, qui était une commande de librairie et qui était un livre tout à fait classique. Encore dans l'inspiration labroussienne du primat de l'économique et du social sur le politique, et qui faisait de la Révolution la geste d'une classe sociale particulière, la bourgeoisie. Donc, un ouvrage...
Qu'il a étudié pendant sa thèse, d'ailleurs.
Qu'il a étudié pendant la thèse qu'il a abandonnée. Donc, voilà, ouvrage assez classique, mais ouvrage qui fait scandale, très étrangement, et qui est très mal reçu de l'historiographie officielle de la Révolution française, qui est une historiographie marxiste à peine, il vaudrait mieux dire une historiographie jacobine de la Révolution française. Alors pourquoi? D'abord parce que le livre est écrit avec une certaine liberté de ton, qui n'est pas tout à fait le style habituel des écrits universitaires. D'autre part, parce que ces deux jeunes historiens qui faisaient ce livre paraissaient des énergumènes qui entraient dans un champ sans en avoir les capacités. Ils n'avaient pas fait de thèse, ils n'avaient pas l'onction sacrale de la thèse. Et il se permettait d'écrire deux livres sur cette révolution. Et par ailleurs, il y avait des choses surprenantes. Il présentait 1793, qui pour toute l'historiographie jacobine est l'acmé de la révolution, il présentait 1793 comme un dérapage par rapport à ce qu'ils appelaient le grand chemin des Lumières, celui de 1789. Et de là découlait un certain nombre de conséquences, comme ça minuscules quand on les expose, mais qui pour la Sorbonne étaient très importantes. Il ne présentait pas, par exemple, le conflit de la montagne et de la Gironde comme un conflit social, issu de situations sociales différentes chez les Girondins et chez les Montagnards, mais il le présentait comme un conflit profondément politique. Et donc tout ça avait amené les tenants de l'historiographie jacobine à présenter le livre comme antipatriote, le mot avait été prononcé, et aussi comme l'œuvre de jeunes gens, de jeunes hommes, qui étaient plus journalistes qu'historiens. Ce qui est tout dire parce que le fait d'associer à la carrière d'historien le métier, même occasionnel, de journaliste, était à l'époque très mal vu. Et donc, la violence même avec laquelle le livre avait été accueilli, je crois, a déterminé chez François la volonté d'en découdre et de mettre cela au net. Et l'occasion lui en est venue par Penser la Révolution, où il a réuni trois articles précédents qui, comme ça, n'ont pas grand-chose, semble-t-il, à voir les uns avec les autres.
Étalés sur 7 ans.
C'est
très important, disons que c'est une pensée qui...
Oui, en mouvement.
Voilà.
Oui, en mouvement et au travail sur elle-même, en perpétuel travail sur elle-même. Bon, donc cet article qui n'avait ni le même ton, ni le même statut, l'un de ces articles était un pamphlet. Le catéchisme révolutionnaire, dirigé précisément contre ces historiens qui avaient si mal reçu le livre écrit avec Richet. Et puis, il coiffe ces trois articles, d'ailleurs sur la demande de Pierre Nora, qui trouvait que trois articles, il fallait quand même essayer de mettre tout ça en musique et en forme. Il coiffe ces trois articles d'une très longue préface, où là, alors véritablement, c'est en effet une préface drapeau, qui est une sorte d'annonciation d'un programme, d'une promesse, etc.
Alors, il y a aussi, bien évidemment, la question de Tocqueville et la question d'Augustin Cochin.
Oui.
C'est ce que nous verrons, Mona Ouzouf, après cette deuxième pause.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe. Vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Nous entamons la troisième partie de notre émission consacrée à François Furet avec Mona Ouzouf, que j'ai l'honneur de recevoir. Mona Ouzouf, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit en introduction, vous avez reçu des mains de Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Hélène Carrère-Nancos, le prix mondial de la Fondation Simone et Sino del Luca pour l'ensemble de votre œuvre. Alors, nous en étions, Mona Ouzouf, à l'évocation de ce livre majeur qui est « Penser la Révolution française ». Et nous savons que François Furet a réhabilité un auteur qui est devenu, non pas commun aujourd'hui, mais incontournable, c'est Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville que nous avons beaucoup étudié dans l'émission « Un jour dans l'histoire ». Je renvoie nos auditeurs à la médiathèque de Canal Academy. C'est Furet qui réhabilite Tocqueville.
Oh, il n'est pas le seul tout de même. Il n'est pas le seul. Il faut quand même rendre justice
à Aron
dans
oui.
cette réhabilitation. Mais Furet trouve dans la lecture de Tocqueville de quoi répondre à une de ses interrogations. Parce que ce qu'il faut comprendre dans Penser la Révolution, c'est qu'il a l'intention dans ce livre de désembourber l'histoire de la Révolution française dans le carcan un peu étroit où elle est enfermée. Alors, pourquoi carcan étroit ? D'abord, carcan affectif. Parce que, il l'explique très bien dans les premières pages du livre, alors que les historiens des Mérovingiens n'ont nullement besoin, quand ils commencent à écrire, de montrer patte blanche ou patte rouge, selon les cas. En revanche, les historiens de la Révolution française sont sommés de décliner leurs appartenances partisanes. Ce qui, au fond, donne deux historiographies de la Révolution française. Une historiographie contre-révolutionnaire, inspirée de Joseph de Maistre, qui a cette phrase superbe « Tout est miraculeusement mauvais dans la Révolution française ». Et une historiographie complaisante à la Révolution, y compris dans ses aspects les moins défendables, et qui les défend au nom de circonstances terribles comme la guerre, etc. Bref, deux historiographies et, en quelque sorte, les historiens sont sommés de choisir leur camp et d'un camp à l'autre, les arguments s'échangent comme à Roland-Garros. C'est-à-dire dans une sorte de symétrie qui n'apporte rien, qui ne fait pas du tout avancer la réflexion. Donc, première chose, Furet a voulu sortir de là et dire il y a une troisième historiographie possible et je vais la faire. Première chose. Deuxième chose, sortir la Révolution des 10 petites années, certes pleines d'événements, convulsives, haletantes, mais enfin, où elle est enfermée. Et Furet ouvre la Révolution vers l'amont, vers un XVIIIe siècle qui déjà voit une sorte de basculement de l'ordre du monde. Et il l'ouvre vers l'aval, vers un XIXe siècle qui va être le remâchage, le radotage de la Révolution française et auquel il consacrera du reste un autre livre qu'il appellera « La Révolution de Turgot à Jules Ferry.
C'est là où il rejoint Tocqueville quand il recherche vers l'amont.
Voilà, et j'en viens évidemment à Tocqueville. Un historien de la continuité qui était attaché à montrer la continuité entre la Révolution et ce qui l'a précédé devait forcément rencontrer Tocqueville. Oui, mais Furet était en même temps extrêmement sensible au surgissement. Et là, comment à la fois miser sur un historien de la continuité comme Tocqueville qui explique qu'au fond, le travail a été déjà fait par l'Ancien Régime, que le travail de table rase que la Révolution française accomplit avait déjà été préparé par l'Ancien Régime, comment arriver à tenir compte de cela et en même temps de ce surgissement qui paraît à François Furet tellement, tellement étrange. Les Français, il n'a cessé de le dire, de réfléchir là-dessus, les Français sont ce peuple bizarre qui déclare n'avoir rien à prendre dans sa tradition. À partir d'un an 1 de la liberté, on n'a plus besoin de faire retour sur le passé, d'avoir un regard sur les ancêtres. Et il y a des exclamations extraordinaires à l'Assemblée constituante quand, par exemple, quelqu'un ose donner un exemple soit anglais, soit américain, l'invoquer. Il y a toujours quelqu'un pour se lever. Je pense à Rabault-Saint-Étienne, par exemple, qui se lève et qui dit « Nation française, tu n'es pas faite pour recevoir l'exemple, tu es faite pour le donner. » Autrement dit, pas d'exemple à chercher dans aucune tradition quelle qu'elle soit, ni étrangère ni française, il faut recommencer tout à neuf. Alors comment expliquer ce phénomène tout à fait surprenant d'un peuple qui rompt d'un coup avec un passé jugé diabolique ou maléfique, encombré, dont on n'a plus rien à faire? Comment articuler ça avec la thèse de la continuité tocquevillienne? Et c'est là que Furet rencontre Cochin et la manière que Cochin a eue d'étudier ces sociétés de pensée où, effectivement, se prépare, se met en scène la rupture avec le passé.
Donc c'est l'aspect idéologique là, qui prime chez Cochin.
Oui, ce qu'il retient chez Cochin, c'est cette sorte de fabrication d'une opinion neuve. C'est la fabrication artificielle de l'opinion. Et donc, il va utiliser à la fois Tocqueville et Cochin, ce qui d'ailleurs lui laisse sur les bras un problème redoutable pour la suite qu'il ne tranche pas.
Oui, oui, parce que penser la Révolution française laisse des questions en suspens.
Des questions en suspens. Et vraiment, ce livre est un véritable programme de recherche. Et c'est du reste pour cela qu'il a été parfois assez mal compris. Et en plus, avec quelques affirmations provocantes, le titre est provocant en lui-même, l'infinitif « Penser la Révolution » est provocant dans la mesure où il suggère que jusqu'alors, la Révolution n'a jamais été pensée. Elle a été racontée, elle a été décrite, elle a été célébrée, elle a été vilipendée, elle a été tout ce qu'on veut, mais elle n'a pas été pensée. Et donc, ça n'a fait plaisir à personne. Et par ailleurs, comme cette longue introduction est mise sous le chapeau d'un titre « La Révolution est terminée », là encore, cette phrase qui a fait fortune et que Furet a été constamment obligé de justifier dans ses écrits suivants, cette phrase n'a fait plaisir à personne. Enfin, du côté en particulier de cette historiographie dans laquelle raconter la Révolution, limiter, l'orienter vers de nouvelles bastilles à prendre, était évidemment l'essentiel.
En fait, il dépassionne l'événement un peu comme il a tenté de comprendre la passion révolutionnaire des intellectuels communistes du XXe siècle dans le passé d'une illusion.
Bien sûr. D'ailleurs, il le dit. Il dit qu'il a voulu transformer la Révolution en objet froid. Jusque-là, elle est un objet chaud que les gens s'approprient que les gens rejettent parce qu'on risque de s'y brûler ou que les gens adoptent au contraire. Mais il faut la regarder d'un œil froid comme on regarderait n'importe quel objet historique. Au fond, il s'agit pour lui de dénouer les liens affectifs, les liens inconscients, obscurs, les liens un peu de famille que les Français avaient noué ou ont noué avec leur révolution.
Alors, pensez la Révolution française paraît en 1978, 10 ans après, en 1988. Il écrit simplement La Révolution française avec des limites chronologiques bien particulières. C'est 1770-1880. Est-ce que, en apportant ces limites chronologiques qui sont inédites, il répond aux questions laissées en suspens dans Penser la Révolution ?
Oui, on peut le dire d'une certaine manière. D'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que là encore, c'est toujours pareil. Les ouvrages de Furet ont toujours provoqué un mini-scandale. Là encore, cette périodisation longue de la Révolution française faisait tiquer beaucoup de gens, comme en la Révolution de Turgot à Jules Ferry. D'autre part, si on lit attentivement Furet, on s'aperçoit qu'il aurait volontiers prolongé plus loin sa périodisation. En fait, ce sont les besoins de l'édition qui l'ont amené à finir en 1880, parce que l'ouvrage faisait partie d'une collection et que le XXe siècle avait été confié à Maurice Agulon. Mais en réalité, et c'est ce qu'on voit très bien d'ailleurs dans le passé d'une illusion, il aurait pu continuer la traîne, puisque c'est ça qu'il fait dans ce livre, c'est la traîne de la Révolution française dans l'histoire politique des Français, mais il aurait pu la continuer comme traîne dans l'histoire politique d'autres pays avec l'étude de la passion révolutionnaire. Il me semble d'ailleurs que cet ouvrage, qui a peut-être été moins accueilli de façon un peu plus indifférente que les autres, il me semble, moi, que cet ouvrage est fondamental dans la pensée de Furet, parce qu'elle nous livre un 19e siècle qui est un 19e siècle profondément politique. Profondément politique, où finalement, ce qui compte beaucoup plus que les transformations sociales, etc., qu'il ne nie pas, mais qu'il n'étudie pas, où compte une sorte de royauté du politique dans la politique française. Et là encore, il y a une sorte de contradiction. De même qu'il y avait une contradiction dans penser la révolution entre la continuité et la discontinuité, là aussi il y a une contradiction qui est flagrante dans l'ouvrage sur la révolution de Turgot à Jules Ferry, qui est la contradiction entre un pays qui n'a cessé de vouloir l'unité, la révolution s'est voulue une et indivisible, pour équilibrer probablement l'unité de la monarchie, et en même temps c'est la révolution qui lègue aux Français la malédiction du chiffre 2. La gauche et la droite. Les régimes qui portent le chiffre 2, la Seconde République, le Second Empire. Et donc, il y a là aussi quelque chose qui est mis en évidence, et je trouve qu'il n'avait, au fond, jamais été mis aussi bien en évidence que dans ce volume.
Alors, est-ce que François Furet invente ou réinvente l'histoire politique ? C'est ce que je vous demanderai, Mona Ouzouf, après cette toute dernière pause.
Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à François Furet. Nous avons évoqué avec Mona Ozouf donc ces deux ouvrages majeurs que sont Penser la Révolution et La Révolution tout court, mais cette révolution qu'il fait commencer en 1770 et qu'il termine en 1880. Vous avez parlé de l'histoire politique tout à l'heure. Furet réinvente l'histoire politique, remet l'histoire politique au goût du jour, alors que l'École des Annales, qui est une histoire qui se consacre davantage à l'histoire sociale, avait mise de côté.
Oh oui, ça je crois absolument. Pour lui, encore une fois, ça n'est pas mépris de l'histoire sociale en tant que telle, mais ce qui est le cœur de ce qui l'intéresse lui, et qui est, disons, les passions. Les passions révolutionnaires ou les passions... Oui, les passions des hommes, moins les intérêts que les passions. Oui, ce qui est au cœur de ces passions, c'est évidemment l'investissement sur la politique. Mmh. Alors, l'investissement sur la politique, c'est quoi ? C'est l'idée que la volonté humaine peut transformer les données sociales, peut inventer une société. Et au fond, ce que Furet essaie de montrer, c'est que la passion révolutionnaire ne s'éteint pas, alors qu'on lui a beaucoup reproché par ailleurs d'avoir dit que la Révolution française était terminée. Mais la Révolution française est terminée comme mode pour lui, comme mode particulier du changement social, mais ça ne veut nullement dire l'extinction de la passion révolutionnaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, il me semble, c'est que lorsqu'il l'étudie dans le passé d'une illusion, lorsqu'il étudie le régime communiste, on lui dit « mais vous ne faites pas l'histoire du communisme ». Et il est vrai qu'il ne fait pas du tout l'histoire du communisme. Mais il fait une histoire de l'emprise de l'idée communiste sur les hommes. Et ce qu'il réhabilite, c'est au fond que les idées ont le pouvoir de transformer et les hommes et la société. En quelque sorte, il y a une précédence des idées sur les faits. On pourrait dire, par exemple, que la pensée socialiste existe en France bien avant le socialisme. Donc, il est faux de croire, je pense que c'était cela sa pensée, il est faux de croire que les idées suivent les intérêts. Bien au contraire, ce sont souvent les intérêts qui suivent les idées. Et ce qu'il essaie de faire dans le passé d'une illusion, c'est une histoire de l'imagination politique, je crois. Et c'est aussi une réflexion sur la manière, sur la résistance que les passions politiques opposent au démenti de la réalité. Si bien que ces illusions, il en reproduit le passé, mais ça ne veut pas du tout dire que ces idées n'ont pas d'avenir. Bien au contraire, puisque ce qui est frappant dans le passé d'une illusion, c'est la force, c'est l'énergie que conserve la passion révolutionnaire.
Passé, présent, avenir. François Furet n'est pas seulement un historien, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un journaliste. Il a travaillé à France Observateur, qui est ensuite devenu le Nouvel Observateur. Pour François Furet, le passé devait servir pour mieux comprendre le présent et comprendre, pourquoi pas, prévenir l'avenir.
Oh, bien entendu. Enfin, prévenir l'avenir, je crois qu'il était assez sceptique sur les leçons de l'histoire et pessimiste sur la manière dont les hommes pouvaient faire profit de ces leçons. Mais il est évident pour lui qu'aucune actualité ne peut se comprendre sans remonter au passé historique. Et du reste, puisque vous évoquez sa carrière de journaliste au Nouvel Observateur, il a été, si j'ose dire, l'historien de service chaque fois qu'il fallait commenter un événement, une célébration, une commémoration, etc. C'est à lui que l'on faisait appel. Donc, en ce sens, il n'a jamais séparé la réflexion sur l'actualité de la réflexion sur le passé, pas plus qu'il n'a séparé son métier d'historien de son métier de journaliste. Pour lui, c'était tout à fait du même ordre. Et du reste, je crois que c'est frappant quand on relit les articles du Nouvel Observateur. Il n'écrit pas de façon différente pour le public du Nouvel Observateur et pour le public supposé de ses livres. Mmh. C'est exactement le même ton. Il ne change pas, je trouve, qui ne change pas du tout de registre en passant de l'un à l'autre. Et il y a beaucoup de ces articles dans Le Nouvel Observateur consacrés à tel ou tel personnage politique qui sont en réalité presque de petits livres, s'il avait eu le temps de les développer, qui donnent la matière de livres.
Vous évoquiez tout à l'heure l'idéologie pendant la Révolution. Est-ce que l'homme, malgré tout, pour François Furet, peut agir sur son milieu ? Il refusait le déterminisme historique.
Ah, de plus en plus, je pense. Je pense que ce qui est frappant aussi dans l'évolution, parce que là, nous présentons une pensée comme un bloc, comme on a fait de la Révolution un bloc.
Alors qu'elle a évolué en constante recherche sur elle-même.
Il y a des ruptures nettes dans son travail, et en particulier, une des ruptures qui me frappe le plus, c'est celle qui consiste à faire de plus en plus leur part aux intentions même des acteurs de l'histoire. Alors qu'au fond, dans ses premiers livres, les acteurs sont presque des instruments d'une histoire qui se déroule à travers eux, mais presque sans leur collaboration. Et je crois que de plus en plus, Furet a fait leur place aux intentions des acteurs eux-mêmes et aux propos que les acteurs ont tenus sur leurs actions. Et ça, je crois que c'est la fréquentation des textes révolutionnaires et la fréquentation en particulier de ces merveilleux écrits de la Constituante qui sont d'une profondeur politique qui ferait vraiment pâlir nos hommes politiques d'aujourd'hui ou rougir comme on veut. Et je crois que c'est cette fréquentation-là qui l'a amené à considérer que ces hommes avaient une conscience beaucoup plus nette de ce qu'ils faisaient, beaucoup plus profonde en tout cas de ce qu'ils faisaient que ce qu'on veut bien en dire généralement. Où on les présente comme des agents inconscients de ce qu'ils font. Je crois que cette part de déterminisme, de contrainte, il n'a cessé de la minimiser tout au long de son œuvre.
Alors, il y a la question de l'engagement. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a eu cet engagement auprès du Parti communiste. Pierre Hassner, dans sa préface de Penser le XXe siècle, paru chez Robert Laffont, parle de libéralisme mélancolique.
Oui, et c'est vrai.
C'était un libéral mélancolique vers la fin de sa vie. Et quel sens donnait-il à ce mot libéral ? Il ne rejette pas la Révolution française, par exemple.
Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Pour lui, c'est une période exaltante. De l'histoire de France. Non, pas du tout. Alors, sur le libéralisme, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a en ce moment, peut-être à cause de l'actualité éditoriale, mais il y a en ce moment une recrudescence des critiques adressées à François Furet de plusieurs horizons. Je pense deux exemples au passage. Perry Anderson a écrit un livre qu'il a appelé La pensée tiède et Furet, la principale cible de ce livre sur la pensée tiède, la pensée correcte, la pensée unique, etc.
Pour Anderson, enfin, est un signe de déclin de la France.
Est un signe de déclin, oui. Et puis, je pense aussi aux travaux d'un historien du républicanisme qui s'appelle Jean-Fabien Spitz et qui préface un ouvrage sur le républicanisme en prenant aussi Furet pour cible et d'ailleurs en lui prêtant, je trouve, des propos tout à fait extravagant, comme s'il était un partisan de l'inégalité, alors qu'il a toujours dit que la volonté d'égalité ou la tendance vers l'égalité était l'honneur de nos sociétés et de notre civilisation. Bref, on a le sentiment aujourd'hui que dans la vie intellectuelle française, Furet est en train de remplacer Aron comme bouc émissaire de la pensée libérale. Le mot libéral étant devenu quasiment une insulte sous certaines plumes. Alors Furet était évidemment un libéral, mais à condition de donner au mot de libéralisme son sens philosophique profond et pas son sens économique étroit. Qu'est-ce qu'il y avait de libéral chez lui ? Je crois méfiance à l'égard des pensées du bonheur commun et préférence pour les pensées qui ne prétendent pas au bien de l'humanité, mais qui prétendent organiser les relations sociales de la manière la plus juste possible. Autrement dit, une préférence pour le juste, sur le bien ou sur le bonheur. Je crois qu'il aurait adhéré pleinement à la formule de Benjamin Constant, quand Benjamin Constant s'adresse aux autorités en disant « restreignez l'autorité dans de justes limites ». c'est ce que nous vous demandons, et nous nous chargerons d'être heureux. Au fond, l'idée contre laquelle toute son œuvre proteste, c'est l'idée d'un bonheur fabriqué d'en haut, imposé d'en haut, et que les hommes n'auraient plus qu'à absorber.
Vous écrivez dans le dictionnaire critique de la Révolution, vous écrivez « Le travail de l'historien est par nature dégrisant ». C'est de ce fait qu'on retrouve chez François Furet cette mélancolie ?
Oui, parce que vous savez, ces livres aussi ont été écrits dans la conjoncture exaltée du bicentenaire, dans l'atmosphère de la commémoration. Or, Furet pensait très profondément que la commémoration et l'histoire étaient deux activités absolument différentes.
Le devoir d'histoire est différent du devoir de mémoire ?
Oui, bien sûr que oui. La commémoration suppose toujours une empathie avec l'objet commémoré. Songeons tout simplement aux commémorations de notre propre existence. Qu'est-ce que nous commémorons dans nos existences ? Nous ne commémorons que les événements heureux. Le reste, nous préférons l'oublier. Et de la même façon, dans une histoire nationale, les citoyens ont tendance à commémorer les moments exaltants. Or, ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est aussi mettre le projecteur sur les moments qui n'ont pas été exaltants ou qui ont été désagréables ou même honteux. Et donc, le travail, oui, le travail de l'historien est par nature, je crois, je pense que François le pensait aussi.
Eh bien, c'est sur ces mots, Mona Ouzouf, que nous allons nous quitter. Vraiment, un grand merci,
merci
d'être venu au micro de Canal Academy. Je rappelle votre ouvrage « Récit d'une patrie littéraire, la France, les femmes, la démocratie » paru chez Fayard dans la collection « Les Indispensables ». Pour préparer cette émission, il y a de nombreux ouvrages. Il y a l'incontournable revue commentaire dans laquelle François Furet écrivait régulièrement. Il y a le dernier numéro où on retrouve notamment vos textes, celui de Pierre Asner, et un texte inédit de François Furet, La France et l'Angleterre au XVIIIe siècle, Révolution industrielle et Révolution politique, le dictionnaire critique de la Révolution que vous avez coécrit avec François Furet, réédité chez Flammarion, La Révolution française, paru chez Gallimard dans la collection Quarto, chez le même éditeur, le livre de Rana Lévy, L'expérience du passé, François Furet dans l'atelier de l'histoire, et enfin Penser le XXe siècle, qui est une compilation, là encore, des textes de François Furet, préfacés par Pierre Asner. C'était une émission consacrée donc à François Furet, un habit vert. Merci beaucoup, Mona Ouzouf, et à très bientôt sur Canal Académie.